Il est 5h en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
Clotilde Dumay.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour RFI Matin. On commence avec le journal. Bonjour Pallon Saint-Spinelli.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Et à la une, un nouveau réveil sous les bombes pour l'Iran et Israël.
Les deux ennemis qui se sont échangés des frappes ce matin, l'armée israélienne annonçant des bombardements d'ampleur sur Téhéran. Les gardiens de la révolution iranien, eux, s'en sont pris à des cibles militaires israéliennes. L'État hébreu où des inquiétudes commencent à naître après des fissures dans le système antimissile. Plusieurs jours que Donald Trump le répète, l'Iran et les États-Unis négocient sur un plan de paix. Confirmation hier du Pakistan qui joue les médiateurs, grâce notamment à l'homme fort de l'armée Asim Mounir, son portrait dans ce journal. Coup d'envoi de la campagne au Bénin aujourd'hui, avant la présidentielle du 12 avril. Et puis c'est une sorte d'aveu d'échec pour Total Energy. Le groupe avoue ne pas être en mesure d'atteindre la neutralité carbone en 2050.
Le premier mois de guerre au Moyen-Orient s'achève comme il a commencé fin février.
Par de nouvelles frappes israéliennes d'ampleur sur Téhéran et des tirs de missiles et de drones iraniens vers des bases américaines dans le Golfe et vers Israël, où le consensus politique autour de ce conflit commence à s'éroder. Hier, le chef de file de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré que l'armée israélienne était poussée à bout. Elle-même a reconnu que son système antimissile connaissait des défaillances. Le week-end dernier, par exemple, le mécanisme Front de David n'a pas réussi à neutraliser les missiles tombés sur Arad et Dimona qui ont fait près de 200 blessés, Frédéric Misselin.
L'armée israélienne assure que son système d'interception à plusieurs couches arrête 90% des missiles, mais après les récentes failles, Timur, un habitant d'Arad, a quelques doutes.
Je ne peux pas dire avec certitude si le système d'interception a fonctionné ou non. Mais avec le réacteur nucléaire à Dimona, il ne peut pas y avoir de faille à proximité d'un lieu stratégique sans système de défense.
Pourquoi ces défaillances ? Il est très complexe de décider en temps réel quel intercepteur utiliser pour neutraliser quel missile. Objectif, ne pas gaspiller un intercepteur coûteux pour une roquette. Il peut aussi y avoir des dysfonctionnements techniques. Et puis l'Iran utilise des bombes à sous-munitions, comme l'explique Yehoshua Kaliski, expert de l'Institut pour les études de sécurité nationale de Tel Aviv.
Il fonctionne comme un missile balistique, mais à la place de l'ogive, il a un paquet de petites bombes, des bombes à fragmentation. Leur poids est compris entre 2,5 et 10 kilos. Il peut y avoir entre 20 et 100 pièces.
Elles explosent en se dispersant sur un rayon de 10 kilomètres. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Les États-Unis avaient laissé planer la menace de frappe sur les installations énergétiques iraniennes si l'Iran refusait de négocier un plan de paix. L'ultimatum courait jusqu'à aujourd'hui, mais Donald Trump a affirmé hier repousser de 10 jours ce délai jusqu'au 6 avril, donc sur demande du gouvernement iranien d'après lui. Et des pourparlers se passent actuellement très bien, comme l'a ajouté aussi le président américain.
L'émissaire de Donald Trump lui a confirmé hier qu'un plan de paix avait été transmis aux Iraniens.
Une déclaration de Steve Witkoff hier, et c'est le Pakistan qui a joué les intermédiaires pour faire passer le document. Le ministre des Affaires étrangères pakistanais a en effet reconnu officiellement ce rôle hier, mais c'est un autre homme qui détient la confiance de Donald Trump actuellement et qui s'est même entretenu avec lui ce week-end par téléphone. Il s'agit du chef de l'armée pakistanaise, Asim Mounir, Claudia Bertram, qui est ce militaire influent.
C'est le maréchal préféré de Donald Trump. Ces derniers mois, Asim Mounir a su nouer des relations étroites avec le président américain. Chef d'état-major de l'armée depuis 2022, le militaire a été promu maréchal après la guerre éclair avec l'Inde en mai dernier. Déjà parmi les responsables les plus influents du pays, Asim Mounir est également devenu chef des forces de défense grâce à une réforme constitutionnelle controversée il y a quelques mois. Chef de l'armée de terre, il a ainsi également pris la tête de l'armée de l'air et de la marine. Et s'est vu accorder l'immunité à vie, ce qui a provoqué inquiétude et critique dans le pays. Un retour en grâce fulgurant pour celui qui avait été commandant et chef des renseignements militaires. Brièvement dirigeant des puissants services extérieurs, il avait été remercié par l'ancien Premier ministre Imran Khan, déchu du pouvoir et en prison depuis 2023. Le changement de gouvernement a permis à Asim Mounir de revenir sur le devant de la scène. Certains le voient désormais comme l'homme le plus puissant du Pakistan.
Claudia Bertrand. Jérusalem.
Et je vous rappelle qu'on sera en édition spéciale sur RFI entre 8h10 et 9h, heure de Paris, pour décrypter les conséquences économiques de cette guerre au Moyen-Orient.
Et à l'ombre de ce conflit, l'actualité dans la région, c'est aussi cette enquête fracassante du Guardian sur les crimes commis par des Israéliens en Cisjordanie occupée depuis 2020, selon le quotidien britannique. Plus d'un millier de Palestiniens ont été tués dans ce territoire, et ce, sans qu'aucun auteur de crime, colon ou soldat, n'ait été poursuivi. Et des villages palestiniens continuent d'être attaqués au quotidien, comme à Beit Imrin, près de Naplouse, où s'est rendue notre correspondante Alice Moreno.
Nichée entre les collines, une tente a été montée au petit matin par les colons près du village de Beit Imrin.
Là, tu peux voir la tente, tu peux voir le drapeau israélien entre les deux arbres.
Notre fixeur, Bassam, journaliste palestinien, désigne du doigt son propre terrain, situé à proximité directe et désormais inaccessible.
Je suis inquiet, bien sûr. C'est ma terre, c'est ma maison.
Un groupe de Palestiniens est arrêté à 100 mètres de l'avant-poste, muni de bâtons, ils ont affronté les colons quelques minutes plus tôt.
Ce n'est pas la première fois qu'ils nous attaquent. Ils nous ont pris nos moutons, nos tracteurs. Ils n'ont rien laissé. On ne peut plus dormir. On reste éveillé 24 heures sur 24. Ils nous attaquent avec des bâtons.
Ils sont prêts à y retourner pour récupérer leurs terres. Au loin, certains colons sont armés de fusils d'assaut.
Les colons sont juste là, installés sur nos terres. L'armée est venue, je leur ai demandé, expulsez-les de nos terres. Ils m'ont répondu non, ils restent. On est en train de se rassembler pour y retourner et faire quelque chose car personne d'autre n'agit.
Nous quittons les lieux et recevrons un appel quelques minutes plus tard d'un Palestinien resté sur place. Il assure que les colons ont tiré à balles réelles sans faire de blessés. Alice Moreno, Ramallah, RFI.
Et sollicité par RFI, l'armée israélienne dit être informée de l'installation de cet avant-poste et promet de procéder à son évacuation sans toutefois fournir de délai.
5h07 en temps universel, c'était il y a 30 ans, Paul, ce vendredi 27 mars, on commémore le drame de Tibirine en Algérie.
Oui, en 1996, 7 moines de cette ville située à proximité d'Alger, la capitale, étaient enlevés puis assassinés en pleine guerre civile algérienne, une attaque revendiquée quelques semaines plus tard par le groupe islamique armé, le GIA. Seule la tête des victimes sera retrouvée plusieurs mois après. Aujourd'hui, l'enquête ouverte en France est toujours au point mort, selon l'avocat des familles des victimes. Tous les détails sont à retrouver sur RFI.fr. Au Bénin, qui pour succéder à Patrice Talon, les électeurs donneront leur réponse dans 2 semaines lors de la présidentielle du 12 avril. Et aujourd'hui, c'est le début de la campagne. Le président sortant achève ses 2 mandats et 10 ans au pouvoir et ne se représente donc pas. Le principal parti d'opposition, les démocrates, ne sont pas dans la course non plus. Présentation des forces en lice avec Magali Lagrange.
2 duos sont en lice contre 3 lors de la dernière présidentielle en 2021. Sous la couleur bleue, Romuald Ouadani, le dauphin du président sortant Patrice Talon, et sa colistière, l'actuelle vice-présidente Mariam Talata. Ils bénéficient du soutien des 2 partis de la mouvance présidentielle, Bloc Républicain et Union Progressiste Le Renouveau, les 2 seules formations à siéger à l'Assemblée nationale suite aux législatives de janvier. Le candidat du pouvoir affiche le slogan « Plus loin, ensemble ». Face à eux, Paul Oumpé, opposition dite modéré, et son colistier Judicaël Ounouanou vont défendre leur programme « Rebâtir ensemble la fierté béninoise sous la couleur verte ». Le candidat FCBE avait tendu la main au parti Les Démocrates qui a choisi il y a quelques jours de ne pas donner de consigne de vote. Le principal parti de l'opposition est lui absent du scrutin, son dossier de candidature ayant été écarté par la commission électorale faute de parrainage suffisant. Les 2 candidats ont 2 semaines pour convaincre les électeurs. La campagne se termine le 10 avril à minuit. Le prochain chef de l'État sera élu pour un mandat de 7 ans.
Magali Lagrange. L'Afrique du Sud n'a pas reçu son carton d'invitation pour le prochain sommet du G7 de juin organisé en France, mais sans quelconque pression américaine. C'est ce qu'a assuré Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, hier, contredisant son porte-parole dans un contexte de forte tension entre l'administration Trump et Pretoria. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a également démenti cette hypothèse hier. Après la séquence houleuse des municipales en France et des accords locaux entre le Parti socialiste et la France insoumise, le premier secrétaire du PS a tenu à mettre les choses au clair hier. Il n'y aura pas d'accord national entre les 2 formations de gauche pour la présidentielle 2027. C'est ce qu'a promis Olivier Faure hier. Au Honduras, la présidentielle avait avait lieu il y a 3 mois. Les premières réformes commencent et le parti désormais au pouvoir fait le ménage dans le secteur de la justice. 2 des plus hauts responsables judiciaires ont été déchus cette semaine. Ça a commencé avec la destitution du procureur général par les députés. Ensuite, c'est la présidente de la Cour suprême qui a démissionné. Tous deux sont accusés d'avoir favorisé l'ancien parti présidentiel de gauche, Libre, et ont été remplacés par des proches du pouvoir. De quoi relancer le débat sur l'indépendance de la justice dans le pays, Marie Griffon.
Dans l'hémicycle, sifflet, bousculade, une destitution qui provoque la colère des députés de gauche du Parti Libre.
Le procureur général, c'est celui qui mène les poursuites judiciaires contre les narcotrafiquants et les crimes graves. Et cela nous laisse un goût amer parce qu'il est allé se défendre seulement avec son téléphone à la main et il n'a pas eu le temps de répondre aux questions et de se préparer. Je le répète, c'était un procès politique.
Joël Zelaya est accusé d'ingérence dans l'élection présidentielle de novembre. Proche de l'ancien parti de gauche, Libre, il a pris la parole publiquement à plusieurs reprises pour influencer l'électorat, a menacé l'opposition de poursuites judiciaires. Pour ce député du camp présidentiel, sa destitution était inévitable.
C'est un message très important pour l'ensemble des fonctionnaires publics du pays. Ils doivent agir conformément à la loi. La destitution a été approuvée avec 93 voix sur 128 députés que nous sommes. Tout a été fait légalement, conformément à la Constitution de la République de notre pays.
En base à la Constitution de la République de notre pays.
Un nouveau procureur général et un nouveau président de la Cour suprême ont donc été nommés, tous deux très proches du parti présidentiel, le Parti National. Préférant garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, des procureurs confient que les enquêtes en cours pour corruption visant le président Nasri Asfoura pourraient désormais être suspendues. Marie Griffon, Tegucigalpa RFI.
Au Chili, des milliers d'étudiants et de lycéens ont manifesté hier à Santiago contre la politique d'austérité du nouveau président d'extrême droite. Dès sa prise de poste, José Antonio Kast avait ordonné une réduction de 3% des dépenses courantes des ministères, notamment dans l'éducation. Le gouvernement réfléchit aussi à restreindre l'accès à l'université gratuite pour les nouveaux étudiants de plus de 30 ans. Une colère enfin alimentée par un ajustement des subventions qui a fait bondir le prix des carburants cette semaine.
Et puis un géant des hydrocarbures tire un trait sur l'accord de Paris sur le climat.
Total Energy qui a déclaré en effet hier ne pas être en mesure d'atteindre la neutralité carbone en 2050, même si les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités du groupe ont diminué l'an dernier. Le groupe français doit revoir ses objectifs, Simon Rosé.
Le Monde et donc Total Energy ne parviendront pas à la neutralité carbone en 2050. Analyse du groupe français publiée ce jeudi dans son rapport annuel sur le développement durable. L'objectif de l'accord de Paris ne serait donc pas tenu et l'entreprise revoit ses ambitions. Pour la branche électricité qui contient notamment le solaire et l'éolien, les investissements diminueront. Ils se maintiennent, voire augmentent en revanche dans les nouveaux projets d'énergie fossile. Principale source d'émissions de gaz à effet de serre, la combustion du charbon, du gaz, du pétrole et le moteur du réchauffement climatique. Et dans une sorte de prophétie autoréalisatrice, Total Energy anticipe donc l'échec des objectifs internationaux de lutte contre ce réchauffement et adopte dès maintenant une stratégie participant des conditions de cet échec. Quand bien même les émissions de gaz à effet de serre liées au groupe ont diminué l'an dernier, très largement portées par l'usage de ces produits par ses clients pour faire rouler leur voiture par exemple, elles étaient de l'ordre de 430 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2025. Des émissions supérieures à celles d'un pays comme la France.
Simon Rosé. Et puis à moins de 3 mois du début de la Coupe du Monde de foot en Amérique, la France assume son rôle de potentiel vainqueur face au Brésil. Victoire des Bleus 2-1 hier soir à Boston en amical malgré un rouge reçu en deuxième mi-temps. Pour refermer leur tournée américaine, les hommes de Didier Deschamps défieront la Colombie. Ça sera dimanche soir.
Merci beaucoup Alonso Spinelli. Et les 5h14 en temps universel, merci d'être avec nous. On va passer le premier mois de guerre au Moyen-Orient aujourd'hui. Un mois donc de blocage du détroit d'Ormuz et de flambée des prix du pétrole et du gaz avec des conséquences sur le pouvoir d'achat des consommateurs, comme l'observe notamment ce boucher à Hanoï au Vietnam.
Les gens doivent resserrer leurs dépenses. Ils n'osent plus consommer comme avant. Avant, par exemple, ils achetaient un demi-kilo. Maintenant, ils n'achètent plus que 300 grammes.
Voilà les conséquences économiques de cette guerre et du blocage du détroit d'Ormuz en Asie, mais également en Afrique et puis dans le monde entier. On va y revenir ce matin, émission spéciale à partir de 7h10, temps universel avec les journalistes du service économie, du service environnement et puis nos invités. Sur le plan militaire, comment débloquer ce détroit? Quelle force navale du côté iranien? Que peuvent faire les puissances maritimes comme les États-Unis?
Maître Renard n'est qu'un tocard, un zonard, un minable, une baltringue, un naze, un faiblard, un brigand, une petite frappe, un petit salopard, il taffe au black. Dans une tanière du boulevard, Maître Corbeau, star à gronde, perché en costard, fait partie de la haute arme, il fume son cigare, il est actionnaire de la grosse tanière, Madame Corbeau. On est la riche héritière, Maître Renard, vénère en galère de Jean Hart, il a même plus un gémant dans le placard, il déprime avec son pétard et son pinard en attendant qu'il arrive le grand soir. Maître Corbeau aime les euros, les restos, les vacances, à l'œil sur le yacht de son poteau, il a du goût, le salon, du standing et de la classe. Lui ne partage qu'avec ceux de sa race, Maître Renard. Et sur la paille n'a plus un dard, Maître Corbeau. Toujours tranquille, toujours peinard, Maître Renard. Risque de faire une connerie, se faire un sarc corbeau en michoui à midi.
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Maître Corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Corbeau était tout de noir vêtu, on ne voyait que ses yeux dépassés de son plumage. Et voilà que débarque le renard. Ouais, c'est bon, enlève ta bourque, barco. Wesh, tu croyais pouvoir passer incognito? T'es pas un corbeau, tu serais plutôt dans le genre pivoleuse. Ce fromage n'est pas le tien, c'est au peuple des renards qu'il appartient. Faudrait que tu rendes ton butin. Bah tiens, trop c'est trop, Maître Corbeau, furax, passe un coup de bigot. Et voilà que les chiens policiers débarquent aussitôt. Une horde de molosses dans le genre berger allemand encercle et bastonne le renard jusqu'à lui faire perdre toutes ses dents. Le corbeau est fier de lui. Ah, je suis vraiment trop fort, c'est vrai, j'avoue. Rien à dire, je bosse. Toutes les meufs me kiffent, normal. J'ai trop de style, trop de classe, trop de flow quand je me pointe quelque part.
C'est chaud.
Face à tant de vanité, le renard a compris que c'était l'occasion rêvée pour récupérer le fromage sacré. Votre majesté, votre jour de gloire est arrivé. Et ce jour, il faut qu'on l'immortalise.
Oui.
Une photo, oh, excellente idée. Souriez à pleines dents et dites cheese.
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Il était une fois, hey, y a pas si longtemps, des renards fatigués, mais pas si méchants, fatigués de voir les corbeaux prendre les décisions et courir pour pouvoir nourrir tous leurs rejetons. Quoi qu'ils fassent, y a pas tout le temps, y a pas le bonheur, y a pas le beurre et la farine, y a pas. Mais franchement, y a pas à applaudir car la maigreur de leur bonheur prenait de l'ampleur de pire en pire. Leurs yeux devenaient fous et leurs crocs luisaient la bave. Ils avaient décidé de prendre un corbeau en otage, 14 jours à peu près de séquestration. Ils l'ont lâché avec des plumes en moins sur le plastron, ce qui déclencha la fureur du conseil corbuesque. Il y eut des représailles terribles et sans finesse, et ceux d'entre eux qui réussirent à s'échapper du mur sans porte vivent sous terre. Ils vivent bien cachés, mais on dit qu'un jour sortit une prophétie qui aurait dit qu'un renard sans haine et sans fusil rétablirait à lui seul l'honneur de tous les renardons de la fontaine. Quand même, hein, ça serait bien quand même, hein.
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Ah, c'est sûr que Maître Renard, par l'odeur alléchée,
lui aurait rendu cet hommage.
fait un pour les bas du front et les mal comprenant les grosses têtes avec du flan dedans. Je fais front, je fais feu tout bois. Qu'est-ce que tu crois? Je vais pas rester les bras croisés, quoique les bras m'en tombent parfois. Je me demande ma foi, est-ce que ce serait pas moi? L'autiste, triste, au QI monstre, le petit génie qui devrait sauter des classes. Mais non, j'ai fait le test sur le nez, c'est sec, disons, ça reste honnête, mais rien de plus, tout juste, bref. La conclusion s'impose comme une évidence. Comme disait l'autre, quelle chance d'habiter la France. Ça s'enrance, ça s'enraye, ça s'encrasse, ça déraille, ça dérape, ça dérive, ça déroule. C'est Beyrouth dans ma tête, j'appe ma déroute. Les gens sont des bêtes et personne ne m'écoute. Ça fait un pour les teubés, teubés, vous me laissez tomber. Y'a rien à faire, ils captent que les que dalle. Que la monnaie, monnaie, qu'on comme des poneys, poneys. J'ai tout donné, donné, j'abandonne, yeah. Ça fait un pour les teubés, teubés, vous me laissez tomber. Y'a rien à faire, ils captent que les que dalle. Que la monnaie, monnaie, qu'on comme des poneys, poneys. J'ai tout donné, donné, j'abandonne, yeah. Les gens sont cons et en plus, entre eux, ils se détestent. Ils se traitent de tous les noms et ils ont tous raison. C'est con, ils pourraient serrer les coudes entre trucs. Si tous les cons se tenaient par la main, ça ferait un viaduc. De tête pleine d'eau, en vase, communiquant. Communiquant, parlons-en, un métier intéressant. Plus tu prends les gens pour des cons, plus ils le sont bizarrement. C'est affligeant, c'en est même désarmant. Yo, passe le spoumpezap. Équipe vitrine ou ma gueule. Vaut mieux en rire que d'en chialer. Rien qu'on rigole, c'est pas pire que de s'en battre les roubignoles. C'est vrai, faut pas se moquer, mais bon, des fois y'a du niveau. Y'a des bêtes de concours qui courent en toute liberté. C'est du pain béni pour les scouts de la télé-réalité. Ça fait un pour les teubés, teubés. Vaut mieux laisser tomber. Y'a rien à faire, ils captent que des que dalle. Que la monnaie, monnaie, qu'on comme des poneys, poneys. J'ai tout donné, donné, j'abandonne, yeah. Ça fait un pour les teubés, teubés. Faut nous laisser tomber. Y'a rien à faire, ils captent que des que dalle. Que la monnaie, monnaie, qu'on comme des poneys, poneys. J'ai tout donné, donné, j'abandonne, yeah. Donc les gens sont teubés, mais y'a des malins. Faut dire que c'est pas compliqué de tirer son épingle du jeu. On est tous le con de quelqu'un, chacun le sien. Et à la fin, y'en a forcément un qui l'est un peu moins. Au royaume des aveugles, le Liban, son roi. Et si tout le monde a deux neurones, si t'en as trois, c'est toi. Si t'en as trop, c'est trop, c'est un handicap. Hypertrophie du cerveau, paraît que c'est incurable. Faut mieux laisser tomber. Y'a rien à faire, ils captent que des que dalle. Que la monnaie, monnaie, qu'on comme des poneys, poneys. J'ai tout donné, donné, j'abandonne, yeah. Ça fait un pour les teubés, teubés. Faut mieux laisser tomber. Y'a rien à faire, ils captent que des que dalle. Que la monnaie, monnaie, qu'on comme des poneys, poneys. J'ai tout donné, donné, j'abandonne,
I'm fucking gorgeous. I got bad lungs that could kill your cobras. If you want to try, you better come inside. Can't buy my bread, but I'm fucking gorgeous. Tell me something I don't know.
participatif.
À Verneuil-d'Avray-Diton, sur le DAB+.
Sur le DAB+.